Se prendre en photo soi-même, tout le monde le sait maintenant, c'est faire un selfie. Même si l'autophotographie ne date pas d'aujourd'hui, bien ce geste simple qui consiste à braquer l'objectif sur soi est devenu récemment un phénomène planétaire dont se sont emparées toutes les sphères de la société. Effet miroir de l'image de soi, comment est née la selfie mania et que dit-elle de notre société? On en parle avec vous dans un instant avec mes invités, vos messages, vos témoignages, vos questions et vos selfies que vous pouvez nous envoyer aujourd'hui. Profitez-en, France Inter. Les selfies des auditeurs également sur le mot-clé l'attaque et sur la page Facebook de l'émission. Des dents chinoises d'Homo sapiens vieilles de plus de 80 000 ans, elles sont à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, et ces dents, on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'elles remettent en cause de nombreuses théories sur les premières migrations des hommes. On vous explique tout dans un instant avec vos selfies sur Twitter et vos questions bien sûr.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Margot Dullard.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le phénomène selfie, donc, c'est dans le dossier de la tête au carré dans quelques minutes. Pauline Escande-Gauquier et André Gunther, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Pauline Escande-Gauquier, est-ce que cette selfie mania, c'est le signe d'une société totalement désinhibée aujourd'hui?
Une société, certes, totalement désinhibée, mais pour moi, c'est un bon signe.
C'est-à-dire?
Dans le rapport aux écrans, parce que... En fait, les individus maîtrisent de plus en plus leur image. Et voilà, c'est ce que révèle aussi ce phénomène du selfie.
Donc cette autonomie vous intéresse, hein?
Exactement.
Finalement. André Gunther, le selfie, est-ce que c'est de la photo ou est-ce que c'est un nouveau genre d'image, justement?
Ça s'inscrit très profondément dans la tradition photographique et dans la tradition de l'autoportrait. Mais ça en renouvelle assez fondamentalement les codes à cause des réseaux sociaux et de la nouvelle visibilité qu'acquièrent ces images.
Ouais, sans les réseaux sociaux, sans les nouvelles technologies, sans les nouveaux appareils, en tout cas téléphoniques, on ne pourrait pas avoir ces selfies aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour en parler, pour évoquer donc ces égoportraits, comme disent les Québécois, avec vos messages et vos images. Homo sapiens a-t-il fait des excursions en Asie du Sud bien avant de s'aventurer en Europe? Cette hypothèse, longtemps débattue, est de plus en plus soutenable avec la découverte de 47 dents d'hommes modernes datant d'il y a au moins 80 000 ans dans une grotte à l'extrême sud de la Chine. Publiée dans la revue Nature hier, cette trouvaille suscite déjà de nombreux débats dans la presse scientifique. C'est donc à la une de la science aujourd'hui. Jean-Jacques Hublin, vous êtes au bout du fil pour nous en parler. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig et vous êtes aujourd'hui en direct depuis le Collège de France et puis bien sûr pour la réouverture du Musée de l'Homme également. Jean-Jacques Hublin, en voyant ces photos très belles de ces 47 dents publiées par vos collègues chinois, qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement? Quelle a été votre première réaction?
Eh bien, ma première réaction, ça a été un peu un choc quand même, parce que ces dents sont très modernes, certains diraient trop modernes, et elles ont apparemment 80 000 ans.
Mais à quoi voit-on qu'une dent est moderne alors?
Alors, toute une constellation de caractères, mais quelque chose de très simple, la taille des racines, la taille des couronnes et de nombreux caractères morphologiques.
Homo sapiens se serait aventuré donc au fin fond du continent asiatique avant de venir en Europe. C'est une hypothèse nouvelle en paléoanthropologie?
Ça n'est pas complètement nouveau. On sait que l'origine de l'homme moderne se trouve en Afrique et on a de nombreux arguments à la fois génétiques et paléontologiques pour soutenir ce modèle. On sait qu'il est arrivé en Europe il y a environ 45 000 ans, quelque chose comme ça. Et on sait aussi qu'il est arrivé à peu près à la même époque en Australie. Maintenant, ce qui se passe entre, disons, la mer Rouge et puis la Chine, eh bien, c'est une terre de spéculation parce que on a pratiquement aucun fossile pour cette région-là et les paléanthropologues se bagarrent un peu sur l'interprétation des outillages lithiques et depuis un moment, certains prétendent que ces outillages lithiques qu'on trouve alors dans la péninsule arabique et en Inde, peut-être, ont une allure bien africaine et donc soutiennent que la sortie de l'homme moderne en direction du sud asiatique est beaucoup plus ancienne que celle qui a conduit à la colonisation de l'Europe.
Ouais. Ces dents, elles appartiennent à plusieurs individus? Est-ce qu'on peut le savoir précisément, Jean-Jacques Hublin?
Ah oui, parce qu'il y a des... D'abord, corps, il y en a 47, donc ça fait beaucoup de temps pour...
Il y a au moins deux mâchoires. Il y a au moins deux mâchoires.
Beaucoup de dents pour un individu. Et puis, il y a des dents qui se... Il y a des doublons. Donc, et bien évidemment, il y a plusieurs individus. Puis, il y a des stades d'usure différents, des pathologies différentes.
Et comment vous expliquez qu'on n'ait trouvé que des dents et pas d'os et pas d'outils?
Alors, pas d'outils, mais probablement que ces restes humains ont été entraînés dans ce karst, qui est un vaste réseau de grottes, par des agents naturels. On pense tout bêtement à la circulation d'eau, et puis aussi peut-être aussi par des carnivores. Et donc, il y a pas d'outils parce que ce sont des êtres morts qui sont accumulés dans cette grotte. L'absence d'os. Ça, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout dans cette région. C'est en partie le climat qui est peu propice à la conservation de l'os. Et puis aussi, dans de nombreuses grottes, les porcs épics ont grignoté tous les os qui traînaient et ils n'ont laissé que les dents. Donc on a beaucoup de dents et pas d'os.
Ils se soucient pas beaucoup des paléanthropologues. C'est pas sympa, le porc épique. Alors justement, Jean-Jacques Hublin, quelle explication on peut donner à cette arrivée donc en Asie avant le nord de l'Europe, au départ de l'Afrique? Qu'est-ce qui expliquerait donc que les Homo sapiens soient arrivés avant?
Alors si on accepte cette arrivée ancienne des hommes modernes dans le sud de la Chine, bien l'interprétation qui vient à l'esprit et qui colle un peu quand même avec le schéma général qu'on a, c'est que les hommes modernes, disons avant 50 000 ans, sont restés inféodés aux zones tropicales. Ils étaient adaptés pour ça, donc ils sont répandus en dehors d'Afrique, dans le sud de l'Asie et peut-être donc jusque dans le sud de la Chine.
Donc ils ont suivi la chaleur?
Voilà, en gros, et puis dans les latitudes plus élevées, en Europe, mais pas seulement en Europe, aussi en Asie, on a des formes archaïques, des Néandertals vers l'ouest, et puis des Denisoviens vers l'est. Il est aussi possible que ça soit une espèce de groupe de pionniers, si je peux dire, qui a fait son chemin très loin en Asie et puis qui n'a pas connu de suite. Hein.
Donc un groupe plutôt isolé, c'est ce que vous laissez entendre?
C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors maintenant, le problème avec tout ça, c'est que l'Asie n'était pas vide. Hein. Il y avait du monde. Donc c'était pas en Europe. On connaît bien les Néandertaliens qui vivaient à cette époque-là. On ne sait pas très bien qui vivait dans le sud de l'Asie il y a 80 000 ans.
Mais il y avait du monde. Il n'était pas seul.
Et il y avait du monde parce que on trouve dans l'ADN des Australiens actuel, un petit peu d'ADN de Denisovien, donc un autre groupe archaïque, hein, qui est le groupe frère des Néandertaliens, et il a bien fallu qu'ils les rencontrent quelque part sur leur chemin en allant en Australie, et c'est probablement dans le sud de l'Asie qu'ils les ont rencontrés.
Jean-Jacques Hublin, le premier auteur de la publication, Liu Wu, il va quand même beaucoup plus loin que ça dans l'interprétation. Pour lui, il faut envisager que notre espèce puisse carrément être née en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Bien, je souris.
Expliquez-nous.
Je souris parce que c'est une vieille histoire de la paléanthropologie chinoise qui n'a jamais digéré l'origine africaine des hommes modernes et des Chinois modernes. Et donc qui régulièrement met sur le tapis des découvertes d'hommes modernes très anciennes en Chine. En général, ces découvertes font un peu flop parce que soit l'âge, soit la nature moderne même de ces restes est contestée. Alors peut-être que cette fois-ci est la bonne, hein, on va voir, mais il faut peut-être laisser un peu la poussière retomber sur cette découverte.
Mais pour vous, ces dents ne seraient pas aussi vieilles qu'elles sont datées là aujourd'hui?
Ben, c'est-à-dire que la date qui est produite, ça n'est pas une date des dents, c'est une date d'une couche de stalactite, de calcite, qui est dans la stratigraphie de cette grotte et qui, normalement, en stratigraphie, se trouve au-dessus de ces dents. Et donc, évidemment, dans une grotte, il se passe des tas de choses et il y a certainement certains de mes collègues qui pensent que une autre explication, alors évidemment, ce sont de mauvais esprits, mais une autre explication, c'est qu'en fait, ces dents très modernes, qui ont même des caries dentaires, hein, comme les hommes d'aujourd'hui, se sont retrouvés sous ce niveau de calcite pour des raisons naturelles, hein, mais qu'elles sont intrusives en quelque sorte dans ce niveau ancien.
Donc il faudra bien dater ces dents elles-mêmes, hein, et plus que leur environnement.
ça sera difficile, je pense, de dater directement les dents elles-mêmes, mais ce qui est important à comprendre à propos d'archéologie et de paléanthropologie, c'est que normalement, quand une découverte comme celle-là intervient, eh bien, soit elle se confirme par d'autres découvertes, donc il y a une facteur de réplicabilité en quelque sorte de cette évidence, mmh. et soit non. Et donc si c'est pas le cas, évidemment, ça reste une bizarrerie. Parfois, on oublie au bout d'un moment.
Bon, bah, si en tout cas c'est confirmé, il faudra peut-être ajouter déjà quelques dents dans les vitrines du Musée de l'Homme qui va ouvrir ses portes samedi, alors Jean-Jacques Hublin. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il faudra, je pense, surtout, parce qu'on a, si je peux dire, déjà des flèches sur des cartes montrant la dispersion des hommes modernes à partir de l'Afrique de l'Est, au sud de l'Himalaya et puis vers le nord en Europe centrale. Ce qu'il faudra surtout, c'est peut-être changer les dates et donc peut-être la couleur des flèches sur ces cartes.
Oui, mais c'est un musée en devenir permanent, donc finalement, c'est pas tellement gênant. On aura l'occasion d'en reparler demain, puisque nous serons donc en direct du Musée de l'Homme dans le cadre de notre journée spéciale pour la réouverture du musée samedi. Et nous attendons d'ailleurs les auditeurs, hein, pour vous, public qui nous écoutez, dès 13h45, si vous êtes à Paris, pour assister en direct à la Tête au Carré. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin.
Au revoir Mathieu.
Bonne journée.
Merci.
À très bien. Merci. À très bientôt. Merci Axel. Et puis on retrouve cette chronique sur le web évidemment.
Comme tous les jours. Franceinter.fr pour les podcasts.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours en Chine également, des chiffres du tabac qui font froid dans le dos. Selon une étude internationale, un Chinois sur trois mourra d'ici 2030 à cause de la cigarette. Si la tendance actuelle se poursuit d'ici 15 ans, la Chine devrait atteindre les 2 millions de décès par an, un chiffre qui passera les 3 millions en 2050. La consommation de tabac en Chine est en pleine explosion. Deux Chinois sur trois commencent la cigarette avant le début de l'âge adulte. Un drôle de mammifère qui vivait au temps des dinosaures, son squelette datant dans environ 125 millions d'années, vient d'être découvert en Espagne, à mi-chemin entre un tatou et le diable de Tasmanie. Ce lointain cousin des rats était doté de poils mais également d'épines et il possédait de petites pattes fouineuses. Jusqu'ici, ces mammifères très anciens étaient mal connus. Nous n'en avions que des dents justement, mais ce squelette retrouvé en parfait état dans un gisement du Crétacé inférieur devrait permettre d'en savoir beaucoup plus, notamment sur l'apparition des piquants. Et puis pour terminer, des images, une animation en vidéo magnifique de la planète Jupiter publiée par la NASA et capturée par le télescope Hubble. Ces images montrent des détails inédits de la planète, notamment l'évolution de certaines taches. On voit également un filament vaporeux se déformant avec les vents et barrant la surface de Jupiter. Les chercheurs n'ont pour le moment aucune explication à ce phénomène. En attendant, ces images, vous pouvez les retrouver sur le compte Facebook de la Tête au Carré et sur le compte Twitter de l'émission. Et une Tête au Carré en selfie aujourd'hui, c'est le dossier dans un instant.
On a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante, je mélange des paroles et de la musique.
Au réveil, c'est du Brassens, que j'émerge encore moins des gens. Ça met trois claques au sommeil, puis ça démarre intelligent. Parce que Brassens, c'est du pain chaud sur lequel tu mets du miel. Ça sent le café expresso, on commence par l'essentiel. Une fois les neurones bien secoués, c'est l'heure du réveil musculaire. Après la douche, c'est NTN qui fait bouger mes maxillaires. C'est l'heure de se remplir d'énergie pour la journée, c'est Kuba. C'est l'heure du flow et des combats, à se rappeler aussi que je viens de là. Quand je prends le volant sur le péri, faut que je continue la série. Du gros son sur chaque texte, alors c'est l'heure de Kerry. Car c'est la bande originale du paysage tout autour. Le bitume prend le micro quand je suis à porte de Clignancourt. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. Midi, c'est le repos du guerrier, la pose du dragon. Y'a la lumière qui s'épaissit et Ferra qui chante Aragon. Des mots tranchants et la voix chaude où quand le feu rejoint l'eau. Le soleil est juste au-dessus, y'a aucune ombre au tableau. À l'heure du dessert, c'est évident, c'est Aznavour. Les petits plats sont dans les grands et y'a le gâteau qui sort du four. Un repas sans dessert, c'est une compile sans la bohème. L'institution dans l'élégance, des profiteroles avec la crème. 15h30, plein soleil, je veux du solide, pas du frêle. C'est bien l'heure du grandiose, du spacieux, c'est du Brel. La poésie qui s'envole et t'emporte en un instant. À Vesoul, à Amsterdam, avec Mathilde et à Milton. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. À la raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. soleil par reculons, c'est peut-être mon moment préféré. Une atmosphère comme du coton et la lumière un peu biaisée. C'est l'heure de tous les états d'âme où je ressens le poids de chaque mot. C'est le bon climat, messieurs dames, pour pouvoir écouter Renaud. Renaud, c'est la tempête dans la douleur du crépuscule. C'est un cœur de moineau dans la poitrine d'Hercule. C'est la rage et la tendresse, il y a 30 ans il a écrit des trucs qui chaque jour m'aident à comprendre ce que je fous ici. Et lors du règne de la nuit quand la lumière s'habille en noir, et pour trouver l'accord parfait entre quiétude et cafard, il nous restera ça, le corps caché sous les draps, une enceinte au bout des doigts qui fait chanter Barbara. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes.
L'heure des poètes, extrait du nouvel album de Grand Corps Malade.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et nous parlons d'un phénomène de société à l'échelle planétaire, le selfie, au cœur du dossier de l'émission cet après-midi. Avec mes invités Pauline Escande-Gauquier, André Günther. Pauline Escande-Gauquier, vous êtes sémiologue et maître de conférence au CELSA. C'est l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Tous selfie, pourquoi tous accro ?» publié aux éditions François Bourin. André Günther, vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférence en histoire visuelle à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous avez publié de votre côté, l'image partagée, la photographie numérique, c'est aux éditions textuelles, un livre dans lequel vous consacrez justement un chapitre au selfie. Les questions des auditeurs, les témoignages et les selfies également, puisqu'aujourd'hui on vous demande de nous envoyer vos égo-portraits sur le site de la Tête au Carré, arrivent donc sur Twitter et sur Facebook. Même si tout le monde sait à peu près de quoi on parle avec le selfie aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quand même nous en donner une définition, Pauline Escande-Gauquier ? Alors l'autoportrait.
Oui, en fait, ce qui fait la différence avec un autoportrait, effectivement, le selfie, c'est l'art de se prendre soi-même en photo, mais ensuite, c'est de le partager, voilà, soit sur les réseaux sociaux, soit de manière plus privée, par un simple texto.
Ouais.
Voilà, donc le but d'un selfie, c'est d'être partagé pour provoquer du c'est commentaire,
de la discussion. Le selfie qui reste dans un album à part, c'est un peu moins un selfie que celui qui circule. Hein.
Oui, et puis de toute façon, c'est aussi le fait de prendre cet autoportrait avec un smartphone, un iPad, enfin voilà.
Ouais. André Günther, vous avez un complément de définition ? Vous êtes assez d'accord là-dessus ?
Oui, on est assez d'accord. Peut-être qu'on peut quand même préciser que le selfie, c'est pas une notion scientifique. C'est un usage vernaculaire qui donc recouvre en fait un groupe de pratiques qui est un peu fluctuant. Certains y intègrent la GoPro par exemple, donc on aurait aussi un selfie vidéo, pas c'est seulement vrai. Photo.
Ouais.
Et puis ce qu'on voit, et ça c'est peut-être plus intéressant, c'est que le selfie devient une forme un peu attrape-tout. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le concept s'installe dans la société, à peu près tout devient maintenant, enfin presque toute photographie devient selfie. On appelle selfie des choses qui ne sont pas des selfies selon la définition que Pauline vient de donner.
C'est-à-dire, vous pensez à
c'est
quoi
un portrait, par exemple.
Ouais.
Là, j'en ai vu ce matin. Vous savez que dans la presse jeune en ligne, il y a plein de... Il y a ces tops avec les 20 selfies, les 30 selfies, les 40 selfies, de ceci, de cela. Donc là, voilà, pas plus tard que ce matin, je voyais une série où plusieurs images, décrites donc comme des selfies, étaient simplement des portraits réalisés par quelqu'un d'autre qu'on voit en face dans le miroir. Donc voilà, officiellement, ce ne sont pas des selfies. Mais vous voyez que le terme contamine finalement de manière virale d'autres situations. Et ça, c'est peut-être une des choses sur laquelle on pourrait aussi discuter, c'est qu'on voit des selfies partout.
Oui. Pauline Escande-Gauquier, Dominique nous envoie ce message. Il nous dit « Le selfie, c'est la négation de la photographie. La photographie est toujours, au départ, une formidable fenêtre ouverte sur le monde. Le selfie procède d'une inversion du regard qui n'est plus tourné vers le monde extérieur, mais vers soi-même. » Alors, pour compléter ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment en dehors du champ de la photographie pour vous aujourd'hui, le selfie, ou pas?
Pas du tout, c'est une nouvelle pratique, comme le disait, le soulignait aussi Gunther, un nouvel usage photographique lié aux nouveaux médias, aux nouveaux supports que sont les smartphones. Et on n'est pas du tout dans le déni du monde, puisque dans le selfie, ce qui est important, c'est soi, mais c'est aussi le décor, c'est ce qu'il y a derrière.
On veut laisser passer un bout de décor, voilà. Souvent.
Donc, on est au contraire dans le monde et on veut attester de cette présence au monde.
André Gunther.
Ce qui est souvent intéressant dans le selfie, c'est l'arrière-plan. J'ai en tête une image très amusante parmi les parodies, puisqu'il y a aussi énormément de parodies de selfie qui sont souvent des images comiques et donc des images qui prêtent à rire et dont on aime se moquer sur le web. Il y a une série qui montre des selfies, souvent faux d'ailleurs, avec des gens qui se prennent en photo et qui ont derrière eux un ours, un animal quelconque. Et par exemple, il y en a une avec un requin. Qui est magnifique.
Voilà, c'est
vraiment la plus belle.
Le requin qui sort de l'eau.
Et donc, vous voyez bien, en fait, ce qu'on regarde dans cette photo, c'est l'arrière-plan, c'est le requin. Oui. Et c'est vraiment bien comprendre ce que c'est qu'un selfie et la composition du selfie, où le second plan est aussi important que le premier.
Le terme apparaît quand? Alors, pour la première fois, puisque vraiment le phénomène est très récent.
Alors, en 2004, en Australie.
On arrive vraiment à circonscrire.
Oui. Ça a été inventé par un jeune geek australien qui. Voilà, se prenait lui-même en photo, avant la fonction reverse des portables. Et il a ajouté le terme « i » pour donner une petite saveur au terme « self ». Voilà.
Ouais. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui sur les selfies, André Gunther, où c'est impossible de savoir combien de photos sont prises chaque jour dans le monde?
Très, très bonne question, parce que on parle d'un phénomène selfie, mais réalité,
on n'arrive pas à l'estimer, à le quantifier.
Incapable de donner un chiffre quel qu'il soit. Il y a la seule étude quantitative qui existe, c'est celle de Manovitch, qui s'appelle « Selfie City », qui a été publiée en 2015, qui fait une étude sur à peu près un demi-million d'images sélectionnées dans les centres-villes de New York, Bangkok, Moscou, Sao Paulo et Berlin.
Oui.
Et quand on lit le détail de l'étude, on s'aperçoit que c'est pas du tout facile à compter parce que on ne voit pas toujours, on n'est pas toujours sûr qu'on a bien affaire à un selfie. En fait, il faut des informations contextuelles, donc parfois c'est lisible, parfois non. Il faut faire des choix interprétatifs, et en réalité, donc c'est très compliqué. Ce n'est, vous voyez, on vit dans un univers de data, de données, d'algorithmes, et aujourd'hui, on ne sait pas compter les selfies.
Bon, en tout cas, il y en a un de plus qui a été fait aujourd'hui.
Surtout qu'il y a beaucoup de selfies qui sont absolument pas visibles, partagées par tous.
C'est ça.
Notamment avec Snapchat, qui est de la photographie, enfin une application de photographie éphémère, et dont le but est de partager avec une personne de manière intime sur un temps très court.
Oui. Voilà. Bon, ben nous on a fait notre selfie en tout cas tout à l'heure puisque vous êtes arrivé en studio et on a fait le selfie.
Il sera public.
il est publié. Je pense qu'il est sur le site de la Tête au Carré et on a le selfie du selfie puisque Axel Villard lui a pris une photo de lui-même nous voyant à l'arrière-plan faire notre selfie. Donc vous pouvez aller voir ça sur le site de la Tête au Carré. Il y a un film qui est sorti en 1981 qui s'appelle Thelma et Louise avec une scène justement qui montre que le selfie est déjà une pratique habituelle. On voit les deux héroïnes partager justement cette pratique qu'à l'époque personne n'appelait encore le selfie.
Attention, attention. Ça y est, tout est dedans?
Ouais.
Attention. Ça y est, mais fais gaffe, je te dis. Un petit sourire.
Nous le week-end.
Voilà, non. Voilà, Thelma et Louise. C'est le début du film, justement, André Gunther. Mmh. Et alors, il y a deux émancipations, là, au fond. C'est d'abord le Polaroid, qui est l'objet utilisé, et c'est la façon de l'utiliser, précisément.
Voilà, alors, donc, ce geste n'est pas encore, évidemment, ne fait pas partie de la photographie connectée. Cette image ne sera pas envoyée en ligne. Mmh. Néanmoins, on reconnaît très, très bien l'aspect qui nous est aujourd'hui familier. Et ce qui est très caractéristique de cette scène, c'est la rapidité avec laquelle les personnages, qui donc reconstituent, c'est un film de fiction, ce comportement, donc fabriquent un selfie. Alors, Thelma et Louise est un film féministe. Et pourquoi Ridley Scott a mis au début de ce film ce geste, c'est pour emblématiser l'autonomie de ces deux femmes qui n'ont besoin de personne pour faire leurs propres photos.
Oui, Pauline Escangoquier, un mot
également
sur cette scène.
Je parlerai aussi du Polaroid et de l'obsession de Andy Warhol à se prendre en photo à la Factory avec toute la population, toute sa famille de l'époque du pop art. Et il y a d'ailleurs un très beau livre qui retrace tous les polaroïdes de cette époque d'Andy Warhol qui vient de sortir aux éditions Taschen.
Et il y a une collection de selfies, hein, pour
oui,
le coup.
Oui, et d'ailleurs, Andy Warhol disait « La photo me permet de me rappeler où j'étais à chaque minute, c'est un journal visuel.
Ouais. »
Donc, et aujourd'hui, quand on voit des plateformes de partage de photos comme Instagram, mm-hmm. c'est vraiment un journal visuel aussi, parce que c'est la logique de l'album,
c'est ça.
De et la
on
galerie.
Voit, on voit d'ailleurs des personnes sur le net qui s'amusent à se photographier tous les jours, depuis des années, à la même heure, hein, qui ont la même démarche, au fond, dans une volonté de voir comment ils évoluent aussi au fil du temps. Donc on utilise le selfie
Oui, et il y a même des montages qui sont faits à partir de ces photos, des artistes mm-hmm. qui en font même, je dirais, une réflexion. Et puis de toute façon, si on parle de la photographie artistique, c'est pas nouveau de se prendre en photo soi-même
ouais.
et d'en faire une réflexion artistique. Hein. Je pense à Cindy Sherman, par exemple, qui a beaucoup... travailler ce genre.
Voici Hugo tout seul, c'est un humoriste du web qui justement est très inspiré par les selfies.
Avant les gens prenaient des photos, maintenant ils prennent des... selfies. Le principe de base d'un selfie c'est quand même de prendre la photo soi-même. Mais ça a carrément remplacé le mot photo maintenant.
Hey, je suis trop fan, on peut prendre un selfie ?
Bien sûr, ouais, pas de soucis.
Tiens, voilà. Hey, continue, t'es trop fort, merci.
Avant on faisait pas de selfie. Allez, c'est parti ouais. Voilà, je vous envoie ça dans 2 semaines.
Yes!
Et puis il y avait toujours quelqu'un qui devait se sacrifier. Qui prend la photo?
Bah, c'est ton appareil, frère.
Et voilà, c'est ça aussi l'autonomie, c'est que tout le monde est sur la photo, hein, André Günther. Plus personne ne doit se sacrifier pour la prendre, justement.
Voilà, il y a eu des systèmes photographiques pour favoriser cette autonomisation de la photographie. Qui, le plus ancien, c'est le retardateur.
Mm-hmm.
Donc là, en fait, on manipule le temps pour arriver à intégrer tout le monde dans une image. Mais évidemment, vous ne pouvez pas faire de photos sur le vif. Mm-hmm. Il faut préparer la prise de vue. Donc le selfie est une solution, disons, assez rationnelle, finalement. Hein, à un problème qui est que depuis que la photo amateur existe, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, les participants d'une action ont envie d'être aussi dans l'image.
Oui. Jean nous dit ceci, le selfie c'est de l'onanisme numérique. Faute d'avoir sa minute de célébrité à la télé, on change d'écran. Le selfie de selfie s'appelle la mise en abîme. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre, Pauline?
Effectivement, pour un certain nombre d'individus qui sont dans cette selfie mania, c'est un petit peu un shoot quotidien avec une recherche d'estime de soi à travers... le nombre de likes qu'ils vont avoir, mm-hmm. les commentaires qu'ils vont avoir également. Donc c'est la logique voilà, de la visibilité, du commérage et de tester combien tu m'aimes.
Ouais, André Günther, sur l'onanisme numérique.
Oui, là on peut ajouter quand même quelque chose d'important. Pour l'instant, on a parlé du selfie comme pratique, mais je pense qu'il y a une deuxième couche qui s'est surajoutée depuis 2013, très précisément. En fait, c'est une page d'histoire culturelle.
Ouais, vous identifiez deux événements.
Voilà,
hein.
Qui est, je dirais, le récit du selfie, ou ouais. Le selfie raconté. Et ça, c'est une nouvelle histoire qui raconte ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le selfie comme lié avec le paradigme du narcissisme ou de la vanité. Qui est d'ailleurs un vieux motif de l'histoire du web. On en parlait avant avec les webcams et mm-hmm. puis les blogs. Bon, de toute façon, on a toujours été narcissique sur le blog, en tout cas pour les critiques des nouveaux outils numériques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle du selfie, on parle de ces deux couches surajoutées, puisque avant 2013, on avait l'exemple de Thelma et Louise, mais voilà, il y a plein d'autophotographies qui existent, qu'on voit sur Flickr, qui circulent et qui ne posent aucun problème, qui ne suscitent pas de débat sociétal ni de condamnation morale. Ce n'est qu'à partir de 2013 et donc d'un moment de focalisation médiatique sur un phénomène bien particulier, qui sont les petites jeunes filles qui reproduisent des selfies à l'imitation de quelques vedettes du show business, Rihanna, Kim Kardashian, Justin Bieber. Donc c'est ce phénomène qui, au début de l'année 2013, va générer un certain nombre d'articles, d'abord dans la presse People, mmh. dans la presse spécialisée web et dans les féminins, qui sont des articles angoissés. Souvent écrites par des femmes d'un certain âge, donc des journalistes qui sont les mères de jeunes filles mmh. de 12 ou 13 ans et qu'elles voient effectivement envoyer sur les réseaux sociaux leur portrait. Donc il y a une sorte d'inquiétude et d'angoisse qui va se manifester et puis très rapidement, à partir du printemps, ce motif va être pris par les grands journaux comme Le Guardian ou Time, hein, qui vont en faire un motif de critique culturelle globale, en disant voilà, c'est un problème de société aujourd'hui, le selfie est une indication de la vanité de l'ensemble de la société.
Et le 20 mai 2013, Time titre justement à sa une, nous sommes dans une génération du moi, moi, moi. Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre dossier. Life is a Fear, Editors à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Mes invités, Pauline Escangoquier avec ce livre Tous Selfies, sorti donc chez François Bourin Éditions, et puis André Gunther avec l'image partagée, la photographie numérique aux éditions textuelles. Alors, on le disait tout à l'heure, bah finalement, le selfie, c'est pas si nouveau que ça. Quand on regarde dans l'histoire même de la photographie, André Gunther, on a hein, cet acte de s'auto-photographier. C'est vraiment l'héritier d'une tradition, d'abord du portrait photographique, hein, et puis ensuite de cette audace d'avoir retourné l'appareil photo dans l'autre sens. Hein.
Alors je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est la dimension finalement politique du portrait, c'est-à-dire de l'apparition de l'image de soi. C'est comme ça que l'interprète Gisèle Freund, la grande photographe Gisèle Freund, mm-hmm. qui a expliqué que l'importance historique de l'irruption de la photographie dans le paysage culturel, c'est la démocratisation du portrait, c'est-à-dire le fait que chacun puisse disposer de sa représentation. Et il y a une façon de comprendre la dimension très profondément sociale de ce geste. C'est actuellement, vous avez une exposition sur le peintre Elisabeth Vigée-Lebrun, et il y a une très jolie vidéo sur le site de Télérama de Chantal Thomas qui discute l'œuvre de ce peintre et qui dit il faut imaginer un monde où, à moins d'être riche et d'avoir un nom, notre visage était à jamais inexistant.
C'est ça.
Donc voilà, la photographie change, amplifie quelque chose qui était réservé autrefois à une élite, et le selfie s'inscrit bien sûr dans cette histoire en l'amplifiant encore à des dimensions totalement inédites. Hein. Là, je veux dire vraiment, le smartphone est un outil qui a démocratisé la production de l'image dans des proportions qui étaient inconnues. Mais c'est la même histoire, et donc c'est aussi logique que cette histoire suscite de l'irritation et de la gêne, parce que effectivement, le fait d'apparaître dans l'image, ce n'est pas anodin.
Christophe nous dit, après tout, les autoportraits des peintres célèbres, ce sont les ancêtres aussi des selfies, Pauline Escangoquier. Hein.
Oui, le plus connu d'entre eux est bien sûr Rembrandt.
Ouais.
Mais à propos du portrait, il faut aussi parler du photojournalisme d'après-guerre, qui a aussi amené toute une autre logique du portrait, avec la logique du témoignage condensé de la réalité d'un événement, d'un mouvement social, d'une guerre, d'une histoire en train de se faire. Et le selfie est aussi héritier quelque part de cela, parce que on voit de plus en plus d'individus qui veulent, à travers le selfie, attester d'un événement qu'ils sont en train de vivre ou d'une émotion. Et de plus en plus, les journalistes aussi, aujourd'hui, utilisent la photographie mobile pour faire leur reportage.
Oui.
Et donc, c'est totalement entré dans les usages. Et aussi, j'ajouterais par rapport à cela qu'il y a eu aussi un autre mouvement photographique qui est la presse people. Voilà, avec la photo volée prise sur le vif, dont est héritière aussi le selfie. Sauf qu'aujourd'hui, on devient son propre paparazzi.
Exactement.
Et on fait ses propres photos et on les publie sur les réseaux sociaux.
Et c'était le cas aux Oscars en 2014 avec un selfie qui a battu des records de likes justement sur Facebook, et c'est l'animatrice Hélène Dégénéresse qui pilote cette photo avec que des stars dans l'objectif.
Je vais prendre une photo de nous et on verra si on peut battre ce record des retweets. Bon, Julia, venez ici.
Channing, if you can get in also.
Channing,
Bradley,
aussi.
Bradley, I want you in it. Jennifer, come in also.
Bradley, pardon.
Get in here. No, I'm doing it.
Venez tous.
Angie,
Brad, Angie, Lupita.
Okay, wait.
Oh, sorry.
Okay, good. Wait, this way, this way. Wait a minute.
Attendez, attendez.
Meryl,
Meryl,
can you take it, Meryl?
Meryl, vous pourriez.
Meryl, can you take it?
Vous pourriez prendre la photo parce que tout le monde ne va pas tenir sinon.
Okay. Your arm. All right.
My arm goes way.
All right.
My arm's definitely better.
Okay. Hey, that's good. Look at us.
Voilà, regardez.
Nice.
Je n'avais jamais tweeté auparavant.
Voilà, cette photo qui a fait donc énormément de likes, mais qui au départ, c'est vrai, était une opération commerciale organisée par une grande marque de smartphones. André Gunther, est-ce que vous vous souvenez de cet aspect de cette photo ?
Alors, cette photo, elle intervient au début de l'année 2014, à un moment où on est encore vraiment dans une phase très négative de la réception du selfie. Il y avait eu en décembre le selfie d'Obama pendant les obsèques de Mandela, qui avait soulevé une certaine émotion dans un sens négatif, en disant voilà, qu'est-ce que c'est que ces.
Il s'était comporté comme un ado. Exactement. Ouais.
Hein, voilà. Donc, le selfie des Oscars est une forme qui va pour la première fois donner un selfie légitime avec une sorte de performance qui consiste à mettre tous ces acteurs célèbres dans une petite image. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment, on a là une caractéristique qu'on retrouve dans notre propre selfie qui est que l'étroitesse du champ oblige à se presser, à se pousser dans l'image, et donc à cette proximité qui est vraiment un trait aussi, une caractéristique du selfie dès lors qu'il y a plus qu'une personne dans l'image. Et là on a ce selfie de groupe qui est devenu aussi un genre où on voit se condenser tous ces visages visages, ce qui donne des images souvent assez sympathiques.
C'est ça.
Et Pauline, on appelle les Yuzi d'ailleurs, ouais. les selfie groupes, on appelle ça les Yuzi.
C'est ça, il y a un autre nom qui est moins connu, hein, celui-là pour le coup. Mais c'est vrai que derrière certains selfies, il y a des marques, il y a toute une économie aussi du selfie aujourd'hui qui
Bien
existe.
Bien sûr, d'ailleurs le selfie, et j'en parle dans mon ouvrage, est devenu un véritable outil marketing.
C'est ça.
Et même redoutable, parce que l'avantage c'est que bon, ça ne coûte pas cher par rapport à d'autres, je dirais, supports de communication.
Et c'est très visible.
Et c'est extrêmement visible. Et un selfie, ça capte l'attention, ça capte le regard, pour ce que disait André Gunther, parce que ça crée tout de suite de la proximité, de l'authenticité, même si elle est feinte. Ça crée du pathos, de l'émotionnel. Et donc, voilà, ça capte le regard.
Ouais, on entendait d'ailleurs, hein, dans le public des Oscars, l'émotion montait au fur et à mesure que les stars se multipliaient face à l'écran. François nous dit ceci, la mode du selfie ne serait-elle pas organisée ? Je sais, je suis un peu parano, cependant cette mode est concomitante au développement des logiciels de reconnaissance faciale. Je n'arrive pas à y voir un pur hasard, André Gunther.
Non, c'est un pur hasard. la meilleure preuve, c'est que les logiciels de reconnaissance n'arrivent pas à reconnaître un selfie d'un portrait normal. Voilà. Donc c'est bien la preuve que ça ne marche pas.
Guillaume nous dit, les selfies sont le stade ultime de la société du spectacle, juste avant l'abandon de la prétention à l'existence réelle et de l'individualisme. Alors
déjà, je voudrais juste souligner que le selfie n'est pas un effet de mode. Le selfie existe, comme on disait, depuis 2004. Il a explosé en 2012 et
Il n'est pas prêt de disparaître
parce qu'on voit que c'est devenu un outil de promotion, un outil de communication. Donc voilà, il faut arrêter de dire que le selfie est un effet de mode. Je voulais déjà souligner cela par rapport à la société du spectacle. Évidemment, le selfie, c'est du donner à voir. Je me regarde, je te regarde, je te regarde me regarder. Mais pourquoi le selfie prend autant ? Parce qu'il y a quand même 15 ans de télé-réalité derrière nous. Donc c'est totalement naturalisé de regarder des gens se mettre en scène dans leur quotidien, ce qu'on pourrait peut-être aborder après aussi, voilà, cette frontière entre l'intimité.
Il y a des questions à ce sujet, justement, la vie privée, et puis ce qu'on partage après sur la sphère publique, André Gunther.
Je voudrais juste dire un mot sur la société du spectacle, parce que le selfie nous montre qu'on a franchi une nouvelle étape. La société du spectacle, ce que Guy Debord décrivait en 1967 comme une forme de consommation passive des médias, des industries culturelles, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on devrait parler d'une société du théâtre, c'est-à-dire d'une société où chacun est devenu acteur de sa propre représentation. Et je pense que ça change tout, et je suis d'accord avec Pauline pour dire que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt bien de devenir acteur de sa représentation que d'être le sujet passif d'images que balancées par les médias.
Sauf que Mappy nous dit, le selfie, l'art est la manière de contrefaire parfois la réalité. Je passe des vacances banales, mais bon, personne ne doit le savoir. Alors pourquoi pas un selfie où je donne l'impression d'être heureux ?
Bien sûr, un des buts du selfie, c'est de réenchanter sa vie, soyons pas naïfs. C'est d'attester d'une vie intense. Et je prends un apéritif avec mes copains pendant les vacances. Si je le prends en selfie, que je publicitarise sur les réseaux sociaux ce moment, eh bien, ça lui donne une valeur d'exception tout de suite, évidemment. Ça marque une valeur d'exception.
Et on va poursuivre le réenchantement grâce à vous dans un instant. Troisième et dernière partie de notre dossier. Beaucoup de messages, ça fait vraiment réagir sur les réseaux sociaux à ce thème du selfie.
Au lac de Com, l'autre Malikra. J'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule. Humaine. baisers me mirent, tes gestes de reine, tes orgasmes doux comme on aime, destin d'animaux et des irithèmes. Basta, on s'en fout, on s'entraîne.
Et c'est Jean-Louis Murat avec Full Romaine sur France Inter.
Il faut bien trouver sa pose selfie aussi. Tu sais, l'angle et la moue où t'es au max de la beauté de ton visage. Tout le monde a travaillé ça pendant des heures. Putain, je suis jamais beau gosse sur les selfies. Alors, peut-être que t'es juste pas beau. T'es pas beau. Alors, faut mettre tes atouts en avant aussi. Les mecs musclés montent leurs pecs ou leurs abdos, les mecs riches leurs thunes ou leurs caisses, les autres, ils se débrouillent. C'est ça qui est chelou avec cette mode, ça nous rend vraiment narcissiques. Limite bientôt ils vont enlever la caméra de derrière sur les téléphones. Entrez dans une nouvelle ère avec le cellphone.
Le cellphone.
Plus de caméra derrière, vous ne pouvez prendre que des selfies. Tu es le seul à pouvoir te téléphoner. Allô, ça va? Bien et toi? Bon bah ciao. Suis tes propres actualités sur tous tes réseaux sociaux.
Eh, Hugo, tout seul, t'es pas tout seul?
Connard.
Voilà, le cell phone, ça c'est quand même une idée géniale, hein, André Gunther, vous trouvez pas? Parce que oui, c'est vrai qu'on peut extrapoler, peut-être que Pauline Escande-Gauquier va sortir un livre sur le cell phone dans 5 ou 10 ans.
Non mais alors, faire ses propres actualités, c'est exactement l'enjeu des réseaux sociaux. Ce qu'ont fabriqué les réseaux sociaux, c'est de mixer du privé et du public. Mmh. Hein, sur Facebook ou sur vous envoyez des signalements d'articles de la presse, et puis vous mettez aussi des photos de votre dernier week-end. Mmh. Et donc c'est cette hybridation de sources de nature différente qui produit aujourd'hui un effet très nouveau, qui est de donner une visibilité tout à fait inédite,
c'est ça,
à l'image privée. Et c'est ça le selfie. Ouais. Et les réactions
dont
vous nous lisez les
majoritairement
traces,
négatives, quand même, il faut bien le dire, surtout les messages qu'on reçoit en ce moment.
Sont la traduction de cette nouvelle visibilité. C'est parce qu'on voit ces images vernaculaires, ces images populaires, qu'on ne devrait pas voir, qui devraient être cachées, comme avant,
mais
comme
autrefois, l'album de tout famille. Mais tout le monde s'y prête. Alors pourquoi on reçoit ces messages, Pauline Escande-Gauquier, qui sont un peu dans la droite ligne des critiques à caractère moralisante subies par le selfie depuis quelques années, quand même?
Oui, alors ce dont parle André Gunther, c'est Serge Tisseron appelle ça l'extimité, voilà. C'est-à-dire comment j'extériorise, je rends visible ce qui est de l'ordre du cachet, je montre les coulisses. Et cette logique d'extimité, on est dans une société obsédée par la transparence, le décryptage. Donc tout ça, ça va avec. Ouais. En fait, le selfie, c'est une manière aussi de montrer ce qui était de l'ordre du cachet. Et donc, on est dans une logique du dévoilement. Ouais. Donc... Mais en même temps, c'est totalement maîtrisé. Je maîtrise les selfs que je construis, c'est-à-dire les différentes identités que je poste sur les réseaux sociaux. Je sais ce que je fais, surtout quand je suis jeune et que j'ai grandi avec les nouveaux médias.
Alors c'est ça. Sauf que parfois, on voit avec François Hollande, qui récemment a été piégé par un selfie, on ne maîtrise pas toujours l'image. Parce qu'il lui est arrivé lors d'un déplacement en Suisse très récemment, d'avoir une personne qui lui faisait un doigt d'honneur derrière.
C'est la logique du bashing. De toute façon, la logique du bashing, mais elle était là avant le selfie. C'est-à-dire comment, à un moment donné, une photo postée sur les réseaux sociaux échappe à celui qui l'a postée et où il va y avoir toute une logique de messages agressifs, moqueurs, voire dégradant sur la photo.
Jérôme nous dit, le selfie est déjà en train de mourir, c'est devenu une habitude de plouc et plus personne ou presque n'en fera d'ici 5 ans. Eh bien, il se trompe probablement, c'est ce que vous lui disiez tout à l'heure, André Gunther.
Écoutez, le prince Harry a annoncé la mort du selfie en 2014.
C'est vrai, ils ont fait sonner les cloches à Buckingham.
Je pense qu'on va pouvoir faire ça tous les ans et être démenti avec autant de régularité.
C'est comme quand on parle de la mort de la télévision depuis plus de 10 ans.
Exactement,
c'est vrai.
Non, si je peux compléter ce que disait Pauline Escande, une catégorie de la sociologie qui permet de nommer cet épisode culturel du selfie, c'est la notion de panique morale. Donc les paniques morales sont des condamnations qui touchent en général les pratiques culturelles des jeunes, donc comme le rock ou la pop musique dans les années 60, et donc ça fait l'objet d'une condamnation morale. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est que les condamnations morales ne marchent jamais. Nous aimons tous aujourd'hui le rock et la pop, et donc nous aimerons tous demain le selfie.
Magda nous dit, le selfie selfie n'a rien à voir avec la démarche artistique de l'autoportrait, même via un téléphone. Le selfie lambda n'a en général rien à dire et imite le people tristement. Vous ne pouvez pas ignorer cela. C'est atterrant, plein de vacuité, plus que de vanité.
Bah écoutez, chacun son opinion, mais il y a quand même tout un courant artistique autour du selfie, de l'autoportrait. J'invite ce jeune homme à aller voir et à s'intéresser à ses communautés, parce que faire de la photographie, qu'elle soit mobile ou argentique, c'est avant tout proposer un regard et quand on est dans une démarche artistique, une mise en abîme, une réflexion par rapport au médium et à la photographie elle-même. Donc voilà. Ensuite, autre petite chose sur laquelle je voulais revenir. Effectivement, le selfie flirte toujours avec le scandale. C'est un de ses objectifs. Il va tester la transgression. On a vu récemment les prisonniers des Baumettes qui ont posté sur Facebook des selfies où les Baumettes, c'est la prison marseillaise, hein, je précise, où ils se mettaient en scène avec des billets, du shit, etc. et reprenaient tous les codes finalement des mauvais garçons, des films comme Scarface. Et là, c'était une manière de montrer qu'ils avaient pris un peu le pouvoir à l'intérieur de la prison.
Le pouvoir de l'image. Voilà. Comme on a vu avec ces jeunes filles américaines se photographiant avec des SDF, je crois que c'était l'année dernière, des photos qui ont fait scandale également sur le net, parce qu'on les voyait dans...
Évidemment, ou les funérailles des selfies postures. Aussi.
Alors c'est ça, oui, ouais. Parce que est-ce qu'on peut faire du selfie partout, André Gunther, hein? Comme on peut rire de tout ou pas?
Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'aspect de la condamnation morale, c'est-à-dire, vous savez que la photographie, il suffit de prendre une photo à un moment particulier pour isoler quelque chose et faire exister quelque chose qui a peut-être eu une seconde de temps réel. Bon, donc si vous photographiez quelqu'un qui sourit effectivement au moment des obsèques,
c'est pas bien.
Ça ne se fait pas. Oui. Donc on est dans un espace qui est contre la convention. Et en même temps, c'est en faisant ce type de condamnation morale que finalement une partie de la presse a assuré la consécration du selfie, c'est-à-dire lui a fait de la publicité en le désignant comme une subculture et donc finalement comme quelque chose de désirable pour tout un tas de gens, pour des jeunes qui finalement se sont dit eh bien allons-y, faisons du selfie si c'est comme ça qu'on énerve les vieux.
Voilà, et ça encourage effectivement les mauvaises manières des adolescents, mais également des adultes. Guillaume Nouillet, un selfie, c'est quand, ne pouvant partager sa réalité, on partage sa virtualité.
Quand on partage sa virtualité, on partage aussi sa réalité, effectivement. La logique du selfie, c'est d'attester aussi, j'y suis dans l'événement, et plus seulement, je regarde, je le vis, et j'y suis. Et en fait, la grande différence, c'est ce que disait André Gunther, c'est que on est dans l'événement, on est acteur de l'événement et on est narrateur de l'événement en direct. Donc ça, c'est totalement en phase avec la société de l'urgence, de l'instantané. Ouais. Et cette recherche aussi de proximité, d'authenticité dont on parlait tout à l'heure.
Sylvain nous dit, les petits couples amoureux faisaient des selfies bien avant l'invention du selfie. André Gunther, dans l'histoire de la photo, on a toujours eu ça.
C'est pour ça que tous ceux qui s'arrêtent à la notion de self-branding, de faire soi-même sa publicité en pointant du doigt quelque chose qui serait un péché capital, ferait bien d'ouvrir les albums de famille du 19e siècle. Parce que je suis désolé de dire qu'on faisait déjà du self-branding en 1854. Et heureusement. Hein, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faudrait laisser aux célébrités, aux hommes politiques, aux puissants, la capacité de se montrer, la légitimité d'apparaître à l'image? Ou est-ce que ce n'est pas mieux que chacun puisse apprendre? Parce que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement poster des images, c'est apprendre à jouer avec les images, c'est apprendre à manipuler et à utiliser la représentation. Aujourd'hui, on n'a pas de meilleure pédagogie que les réseaux sociaux.
Voilà, et les toutes premières émissions d'ailleurs sur France Inter au sujet du selfie, parce que le phénomène maintenant date d'il y a 10 ans, mais on en parle depuis peu et le recul est très récent, hein, André Gunther.
Oui, vous voyez, Pauline, c'est le premier livre sur le selfie. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Et un chapitre dans le vôtre, André Gunther, l'image partagée aux éditions textuelles et donc tous selfie, pourquoi tous accro aux éditions François Bourin, Pauline Escangoquier et le selfie de la tête au carré avec nos invités. Ben, vous pouvez aller le voir, on a fait des petites photos pour vous tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Merci beaucoup.